Bon, bien écoutez, après cette présentation très astrophysique de l'univers variable, moi je vais être beaucoup plus pied à terre et vous montrer comment on fait et comment on va faire demain ces détections d'objets variables au niveau optique. Donc, qui est une. En fait, donc la ZTF dont on vous a parlé un petit peu. Qui tourne actuellement, a déjà fait des révolutions sur ça, et on espère que l'SST va en faire aussi. En fait, depuis une vingtaine d'années, le ciel variable est un domaine de recherche très, très actif, et de par, justement, l'avancée instrumentale qui est associée à ça. Et donc, tous ces objets astrophysiques complexes, avec des propriétés très intéressantes, peuvent être étudiés, en particulier dans le domaine optique, ou détectés dans le domaine optique, grâce à ces avancées. Donc là, je vais vous parler d'un télescope qui est en cours de construction, qui s'appelle donc le Vera Rubin Observatory. Le survey lui-même s'appelle LSST, pour Legacy Survey Space and Time, c'est la nouvelle signification du mot LSST. Et c'est un système qui est aujourd'hui en construction, bon, qui est bien avancé, comme vous pouvez le voir, mais qui, le Covid oblige, est un petit peu en retard sur sa prise de données. La première lumière est attendue maintenant en 2023. Mais surtout, ce qui est intéressant à travers cette présentation, enfin, j'espère, c'est de vous donner quelles sont les problématiques de la détection de ce ciel variable et pourquoi faut-il aller dans cette direction-là, à grande échelle. Donc, je vais commencer par un petit côté pédestrien, disons, sur quelle est la problématique d'observer le ciel variable. Alors, la première problématique, c'est que le ciel est grand, il est très, très, très grand. Donc, vous avez l'impression que la Lune est grande dans le ciel quand vous la voyez. En fait, elle est toute petite. La Lune, c'est de l'ordre du quart de degré carré. Le ciel en fait plus de 40 000. Donc, en fait, c'est vraiment, quand vous voyez la Lune, c'est vraiment une petite fraction. Si vous voulez voir toute la surface du ciel, alors déjà, c'est difficile parce qu'il y a deux. En général, quand on est soit l'hémisphère nord, soit l'hémisphère sud, on n'a accès qu'à la moitié. Puis en fonction de la saison, vous n'avez encore qu'accès à la moitié parce qu'il y en a une moitié qui est cachée par le soleil. C'est-à-dire que le jour, vous ne pouvez pas voir le ciel. Donc à peu près, quand vous êtes à un endroit sur la planète, vous pouvez à peu près observer 20 000 degrés carrés du ciel, et à une saison donnée, c'est-à-dire à une période donnée, 10 000 degrés carrés, c'est-à-dire à peu près la moitié du ciel visible. Donc 10 000 degrés carrés par rapport à la Lune qui a fait un quart, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc en fait, regarder la surface du ciel, c'est quelque chose qui nécessite des observations assez particulières, et en particulier ce que vous voyez ici, c'est donc une propriété de deux télescopes, donc le Keck qui est le plus grand télescope au niveau de surface de miroir en activité, donc il y a une surface avec un diamètre de 10 mètres, mais par contre qui a un champ de vue, c'est-à-dire que quand il prend une image, la portion de ciel qu'il voit est seulement correspond à un angle de 0,2 degré. Donc une image, c'est une toute petite fraction du ciel. Alors que dans LSST, effectivement, LSST a un fisheye, un grand œil, et est capable de voir à peu près 40 fois la surface de la Lune en une seule pose. Donc évidemment, ça va aller beaucoup plus vite de regarder tout le ciel. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc c'est effectivement le champ de vue de l'observatoire, mais pas que. Donc si vous voyez une très grande surface, c'est très bien, mais la question, c'est maintenant jusqu'où vous pouvez voir des objets. Et donc ça, jusqu'où on peut voir des objets, c'est-à-dire quelle est l'intensité de l'objet que vous voulez voir. En fait, ça, c'est directement lié à votre œil de chat, c'est-à-dire si vous avez une pupille que vous pouvez bien dilater, donc en fait à la surface du miroir que vous allez utiliser. Si vous avez un très grand miroir, vous allez pouvoir collecter beaucoup de lumière, et donc si un objet vous en envoie peu, vous allez quand même arriver à le voir. Et donc en fait, c'est le produit de ces deux quantités qui grossièrement vous donne une idée du volume d'univers qu'une pose va vous permettre de voir. Et donc si vous avez une grande étendue, donc ce produit de surface par le champ de vue, ça veut dire qu'en une seule pose, vous allez voir un grand volume d'univers. Et donc, ça, si vous voulez des événements qui sont plutôt rares, même si l'univers est très actif, a beaucoup d'objets variables, c'est quand même très intéressant de pouvoir en une seule pose voir un très gros volume. Donc, vous aurez en une seule pose beaucoup de chances de voir quelque chose d'intéressant. Donc, ça, c'est le point clé de l'observation du monde variable, c'est de pouvoir voir en un seul coup, en très peu de temps, un très, très gros volume d'univers. Et donc, en fait, cette augmentation de l'étendue, elle peut se faire de deux façons, soit en augmentant la taille du miroir, donc de voir des objets de plus en plus loin. Bon, en fait, d'abord, c'est assez difficile de faire de très grands miroirs. Et ensuite, pour une remarque, en particulier pour ce qui est de la photométrie, c'est-à-dire de voir juste l'objet dans un domaine spectral assez important, ce n'est pas forcément très utile, parce qu'en fait, l'atmosphère, nous coupant les infrarouges, essayer de voir très très loin, il y a malheureusement une limite. Et donc, ça coûte très très cher à partir d'un certain moment de voir des objets très très loin, c'est-à-dire très très rouges. Par contre, effectivement, augmenter le champ de vue, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, et donc c'est effectivement une démarche telle qu'a été faite par ZTF ou qui va être faite par LSST, c'est-à-dire prendre une très très grande, un très grand champ de vue, et aujourd'hui ce qui est fait pour augmenter l'étendue, c'est-à-dire augmenter le volume d'univers. Ensuite, il y a autre chose qui est aussi, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, c'est augmenter le temps dédié à ces relevés systématiques. C'est-à-dire que si vous voulez faire une search, vous n'allez pas regarder le ciel une fois. Vous allez regarder au moins deux fois pour voir que ça avarie. Et puis là, ce dont on parle, c'est quand même des événements rares. Donc il va falloir le faire ça très très souvent. Donc si vous faites ça pendant une semaine, c'est bien. Donc vous pourrez peut-être voir à quelle fréquence vous allez regarder. Disons si c'est une fois par nuit, vous allez voir des objets qui varient avec des périodes peut-être d'un ou deux jours. Ça ne couvre pas l'ensemble des domaines variables qui peut nous intéresser. Et en plus de ça, évidemment, si ce sont des événements très rares, il faudra regarder, continuer à avoir ce système en permanence. Et en fait, très peu d'observatoires jusqu'à présent étaient dédiés comme ça, à regarder le ciel continuellement. Et donc ZTF et LSST, les deux, regardent le ciel, à peu près l'ensemble du ciel visible tous les trois jours, et donc effectivement, continuellement, vont monitorer le ciel. LSST, ça va durer une dizaine d'années, ZTF... Pour l'instant, ça fait à peu près 4 ans qu'ils prennent des données. C'est les ordres de grandeur que l'on recherche, c'est-à-dire quelque chose qui fait, disons, un film du ciel en continu. L'intérêt donc de ça, c'est effectivement avoir des observatoires qui sont efficaces, parce que si vous prenez une pause du ciel, donc une très grande surface, et qu'il vous faut un quart d'heure pour prendre la pause d'à côté, vous allez avoir du mal à faire tout le ciel à cette eau-là. Donc effectivement, il y a une problématique d'efficacité, c'est que ces observatoires qui veulent faire le survey de l'ensemble du ciel doivent être efficaces, c'est-à-dire aussi bien pour enregistrer les pauses, mais aussi pour bouger, pour changer de filtre, puisqu'en général, vous allez le regarder dans plusieurs domaines, dans le domaine optique, mais dans plusieurs bandes. On ne voit pas très bien, mais donc là, je vous ai mis quelques exemples qui correspondent à une évolution. Donc, vers le bas, c'est disons, on l'aime bien parce que ça a été un grand succès au niveau français, puis au niveau de la cosmologie sur laquelle je travaille aussi, c'est-à-dire le MegaCam CFHT, qui a été, disons, un télescope, dans le télescope français à Hawaï, qui est pour, disons, a commencé à faire ses surveys un peu systématiques pour les supernovas, dans ce cas-là, et donc il y a eu effectivement un grand succès. Et donc, ça avait quelque chose qui a tourné de 2003 à peu près jusqu'en 2008 et qui avait réservé 100 nuits par an pendant 5 ans. Pas pour faire que le survey supernova, mais entre autres, donc les supernovas étant des objets variables. Et le survey supernova a été fait dans un tout petit champ. Et donc, en fait, il y avait deux champs de deux fois 2 degrés carrés qui étaient observés, c'est-à-dire qu'en permanence, en suivant la saison, il y avait 2 degrés carrés qui étaient regardés. Donc je vous disais, à peu près à une saison, à un moment donné, vous pouvez regarder à peu près 10 000 degrés carrés dans le ciel. Donc c'était une toute petite fraction qui était monitorée à peu près continuellement, c'est-à-dire 100 nuits par an, c'est déjà pas mal. Et donc, DECAM a eu à peu près les mêmes objectifs. Bon, c'est un télescope qui est à peu près de la même taille que celui de MegaCam, qui avait un champ qui était plus grand. Donc, lui qui a pu faire à peu près ce survey avec à peu près 10 fois plus de surface. Mais pareil, avec des durées qui correspondent plutôt à une centaine de jours par an. Et donc, sur des surfaces qui restent très petites. Subaru, alors là actuellement il y a aussi un survey qui est en cours en fait, qui vient juste d'être fini sur les supernovas, mais là c'est pareil, ce sont des surfaces très petites qui ont été regardées, 8 degrés carrés pendant en fait quelques lunaisons. Et donc c'est l'ensemble de ces surveys donc avait potentiellement la possibilité de faire un film, donc de faire un monitoring continu du ciel, mais n'a pas été fait. C'était pas les objectifs scientifiques. Par contre, les deux projets suivants, donc ZTF pour les objets plutôt proches, hein, donc une magnitude limite de l'ordre de 20, et pour LSST, donc une magnitude limite de l'ordre de 24, ZTF est dans l'hémisphère nord et LSST dans l'hémisphère sud, eux sont des projets qui sont très différents. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voyez dans la dernière colonne, ils sont capables de faire plusieurs milliers de degrés carrés par nuit, et donc vont en permanence donc, regarder le ciel, et en particulier donc, le ciel variable. Alors, les échelles, là, ce que vous avez sur ce dessin, c'est sur l'axe des X, donc c'est la magnitude à laquelle vous pouvez voir une certaine variabilité. Donc, plus la magnitude est élevée, plus l'objet est faible. Donc, vous voyez LSST un peu tout seul en haut à droite. Et sur l'axe des Y, c'est la surface que vous avez monitorée. Donc, dans le cas de LSST, c'est de l'ordre de 20 000 degrés carrés. Alors, pas en continuement, hein, puisque c'est... Vous ne pouvez pas voir 20 000 degrés carrés d'un seul endroit en même temps, mais c'est en couvrant deux saisons, enfin en couvrant autour d'une année. ZTF, lui, est plus à des magnitudes plus faibles, là plutôt de l'ordre de 21, et sur les surfaces scannées, en fait, est un peu plus haut que ce qui est donné sur ce plot, sur ce schéma. Bon, je vais plutôt vous le montrer en image. Donc, regardez le ciel continuellement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau instrumental, okay, les pieds sur Terre. Je vous ai dit, LSST fait 10 degrés carrés. En une nuit, vous pouvez à peu près en observer 10 000. Donc, il va falloir faire 1 000 pauses dans la nuit. Et donc, il va falloir pointer, il va falloir se promener dans le ciel. Un télescope qui avec un miroir de 8 mètres, ça pèse plusieurs tonnes. Et donc, ce n'est pas évident de faire bouger... rapidement quelque chose qui fait plusieurs tonnes. Et donc là, en particulier, le design de LSST, c'est un télescope qui est assez compact. En fait, il est aussi haut que large. C'est une espèce de petit trapu, et ça lui fait un centre de gravité très bas, ce qui lui permet de se déplacer assez rapidement. Et donc, en particulier, son champ faisant 3,5 degrés, donc il peut pointer, se décaler de la taille de son champ, donc de 3,5 degrés, en quelques secondes. Pour quelque chose qui fait 350 tonnes, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, c'est une des contraintes, c'est que si vous voulez regarder tout le ciel, il faut pouvoir le faire vite, et il y a un problème de base, ben, il faut bouger vite. L'autre problématique, c'est que, bon, c'est en astronomie, le problème de l'observation, c'est que il y a peu de photons, et au niveau de l'électronique, il y a un problème de bruit. C'est que, en général, les capteurs, et en particulier, je sais pas moi, vos appareils photo, quand vous prenez des photos de nuit, ils sont pas terribles. Souvent, c'est relativement bruité. Et pourquoi ? Ben, c'est le bruit électronique qui est associé à la lecture. Pour éviter ça, il y a plusieurs façons. Bon, déjà, il faut que l'électronique soit refroidie. Bon, c'est pas facile de se promener avec un iPhone à moins 100 degrés dans la poche, mais bon, sur un observatoire, c'est ce qu'on fait. Mais en plus, la problématique supplémentaire, c'est que quand vous lisez l'image, en général, il faut la lire relativement lentement. Si vous la lisez trop vite, ça va faire du bruit. Et ça, c'est un problème, je dirais, qui est un problème de physique, en fait, hein, qui est un problème qui est difficile à résoudre complètement. Et une des façons qui peut être résolue, c'est le cas, c'est ce qui a été fait dans LSST, ça a été plutôt que de lire l'image en faisant tout passer par un tout petit tuyau, et donc c'est assez lent, puisque chaque pixel doit être lu les uns à la suite des autres, c'est de multiplier le nombre de tuyaux de lecture. Chaque tuyau pouvant lire relativement lentement, mais comme on a multiplié les tuyaux de lecture, on arrive à purger, à vider tous les pixels de l'image relativement rapidement. Et le problème quand on fait ça, c'est que ça multiplie le nombre de canaux vidéo. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a résolu le problème de lecture en augmentant le nombre, enfin la vitesse de lecture en augmentant le nombre de canaux vidéo. Le problème, c'est que ça multiplie le nombre de canaux vidéo. Donc, les observatoires jusqu'à présent, donc il y avait une centaine de CCD, avaient à peu près 200 canaux de lecture, peut-être 400 canaux de lecture. En fait, non, c'est plutôt de l'ordre de 200, les records. Le cas de LST, c'est plus de 3000 canaux de lecture. Et donc, en fait, dans ce domaine-là, au niveau électronique, de compacité, il faut que l'électronique elle rentre derrière le CCD, puisque bon, sinon elle est loin, donc ça va, ce qu'on gagne d'un côté avec du bruit, on va le perdre en ayant mis l'électronique plus loin. Donc, il y a une problématique technologique à ce niveau-là, qui est de faire quelque chose qui va être lu rapidement, dans ce cas-là, avec beaucoup de canaux de lecture et qui prennent peu de place. Donc ça, c'est un problème, je dirais, pratique, mais qui, au niveau technologique, en fait, nécessitait beaucoup de travail et qui est un frein à ce type de développement. D'accord ? Donc, ça, c'est les deux points donc, par rapport à la vitesse. Bon, ensuite, ben, Ensuite, allons-y, hein, donc on va regarder tout le ciel. La problématique, c'est que la couleur, c'est-à-dire l'énergie, la distance, enfin, la couleur peut indiquer plusieurs choses, mais dans le cas des LSST, qui a des objectifs cosmologiques, c'est aussi une information de distance, les objets les plus rouges étant ceux qui s'éloignent de nous les plus rapidement, et donc qui sont en fait les plus loin. Donc pour ça, il faut une information de couleur, donc l'utilisation de filtres. Et c'est aussi en fait très important cette information de couleur, car ça va permettre de distinguer des transients, enfin des transitoires différents, qui ont des propriétés physiques, des propriétés énergétiques ou des propriétés de distance, dans le cas des supernovas, qui vont être différents, et donc qui vont permettre de les caractériser juste par photométrie, sans forcément prendre un spectre qui, lui, peut être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, en tout cas au niveau de la détection, qui va permettre de distinguer les différents objets variables qu'on a dans le ciel. Donc là, ce que vous voyez, donc, c'est le ciel, c'est le nombre de visites. Bon, là, dans ce cas-là, dans le filtre R, donc il y a un filtre, comme son nom l'indique, qui est plutôt rouge, et vous avez donc dans le tableau qui est là, le nombre de visites qui seront faites par filtre au cours du temps, et la magnitude pour chacune des visites. Donc c'est à peu près, disons, dans les parties un peu rouges qui nous intéressent là, qui est plutôt autour de 24. Et donc, effectivement, après, ce qu'on peut faire, c'est sommer toutes ces visites pour avoir une descente donc, en magnitude, et on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de 27. Donc, alors, comment ça marche ? Ben, c'est simple. Hein, donc, on pointe à un endroit dans le ciel, on fait une pause de 15 secondes, c'est-à-dire qu'on attend, on ne fait rien faire, on collecte des photons pendant 15 secondes. Alors il s'avère que le plan focal est très grand, il fait pratiquement 65 cm. Et donc mettre un shutter, c'est-à-dire arrêter la lumière, ben, ça ne se fait pas à la vitesse de la lumière, il faut un certain temps, c'est quelque chose de mécanique qui va se déplacer sur pratiquement un mètre, et donc ça prend un certain temps, ça prend à peu près une seconde. Mais vu les temps dont on parle, c'est important, ben, c'est une seconde de perdu. Hein. Puis après on va lire, donc là c'est le miracle du parallélisme, ça prend 2 secondes, et on va faire la pause suivante, on va fermer le shutter, et on va bouger le télescope, ce qui va prendre à peu près 5 secondes, mais en même temps qu'on bouge le télescope, là on est malin, on peut faire la lecture. Et donc, en gros, ces deux pauses qui sont faites dans la même zone du ciel, ça va prendre 39 secondes pour 30 secondes de collecte de photons. Donc c'est une efficacité, bon, c'est de l'ordre de 75%, c'est pas mal, c'est à peu près standard en fait dans un observatoire, mais dans ce cas-là, on a fait déjà 2 pauses de 15 secondes séparées de quelques secondes. Donc déjà, on a une variabilité, là, quelque chose, des objets qui varient très rapidement, donc qui vont changer, disons, en quelques secondes, là, vont pouvoir être détectés par ça. La seconde échelle de temps qui est prise, c'est qu'une nuit donnée, en fait, après une visite, la même zone du ciel va être re-regardée à peu près 1 heure ensuite. Donc ça donne une seconde période de temps. Donc les objets qui vont varier sur des périodes, disons, de l'heure ou de quelques dizaines de minutes, pourront être caractérisés de cette façon-là aussi. Et ça, cette même paire, va être visitée toutes les 3 nuits à peu près. Donc là, c'est une autre échelle de temps, donc plusieurs jours. Et donc à ce moment-là, vous voyez qu'on a plus... On a avec un survey de ce type-là et... Tout n'est pas encore figé, on va avoir accès à plusieurs échelles de temps de la variabilité, qui est un problème très important dans le ciel variable. C'est que suivant l'origine astrophysique, eh bien, il y a des échelles de temps de variabilité qui sont très très différentes. Et là, juste donc, pour finir cette introduction sur le télescope lui-même, disons ses capacités pour détecter la variabilité, eh bien, ça donne quoi ? Donc, LSST va en une nuit collecter 15 terabytes de données. Bon, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais c'est énorme. Disons que ça ne rentre pas sur un ordinateur. Et le problème, ce n'est même pas une question de volume, c'est ne fût-ce que le lire avec un ordinateur, ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui peut prendre, rien que pour lire l'ensemble de ces images sur un ordinateur moderne, ce sera plusieurs heures. Donc, or, ça a été acquis en une nuit. Donc, mais en disant le nombre d'objets qu'on espère voir, hein, c'est juste ce qui est accessible depuis l'hémisphère sud, ben, c'est pratiquement 40 milliards d'objets. Donc dans ces 40 milliards d'objets, ben, c'est à peu près moitié-moitié des galaxies et des étoiles. Donc, les étoiles étant celles de notre galaxie. Hein. Mais comme on revient au même endroit à peu près 800 fois, donc dans différents filtres, mais dans les 10 ans, on va revenir 800 fois, en fait, ça fait un nombre d'informations, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 800 informations pour ces 40 40 milliards d'objets. Et donc, c'est là la richesse. La richesse, c'est cette variabilité, c'est à travers ces 800 observations de ces mêmes objets au cours de 10 ans. Et le nombre moyen d'alertes, donc de transitoires par nuit, quand on met ce système en œuvre, ben c'est plusieurs millions. Alors là, oui, vous voyez que le ciel il est très, très variable. Et encore, c'est quelques millions quand on n'a pas la mauvaise idée de regarder dans la galaxie. Parce que si on regarde la galaxie, dans le plan galactique, là, c'est carrément 10 millions. Parce qu'il y a énormément d'étoiles variables qui sont intrinsèquement variables, avec des amplitudes qui peuvent être faibles, mais la sensibilité de LSST, hein, qui est capable de voir quelque chose qui varie à peu près au pour mille sur ces magnitudes de détection, c'est quand pratiquement toutes les étoiles sont variables. Donc là, effectivement, on aura un film, vraiment, c'est-à-dire l'univers en trois dimensions, la troisième dimension étant fournie par les filtres, et le film, ben, c'est 800 poses d'un même objet au cours du temps pendant 10 ans. Et donc le volume de données, ben, effectivement, est relativement énorme, et tout sera donc effectivement écrit dans une base de données qui sera utilisée elle-même pour la science, c'est-à-dire que tout le monde aura accès, enfin, à plus ou moins échéance à un moment donné, à ces 15 pétabytes de données où il y a pour chacun de ces 40 milliards d'objets un film décrivant son histoire pendant 10 ans. Bon, alors, l'état du système aujourd'hui, enfin, de cet observatoire, bon, mais il est encore malheureusement en construction. Bon, il est bien avancé, hein, le cœur, comme vous avez vu la première photo, le dôme est en place, le télescope est en place, la caméra, elle a tous les éléments, il y a un cours d'assemblage actuellement, le plan focal est en train de prendre des données aujourd'hui, des données de test. La caméra sera envoyée l'année prochaine au Chili et la première lumière sera courant 2023 et le survey lui-même commencera dans la foulée. Bon, maintenant, je vais essayer d'être un petit peu plus concret. Donc, je vous ai donné une image de ce que c'était qu'est-ce qu'il fallait pour faire la détection donc, d'objets variables. Je vais peut-être donner en fait deux exemples pour bien mieux comprendre quelle est la problématique et en quoi LSST est une solution. Pour revenir un petit peu en arrière, c'est la problématique des objets variables. Elle peut se résumer en deux choses. Bon, alors leur nombre, d'accord, il n'est pas sur ce plot. Il y en a des qui sont plus ou moins rares. Mais en tout cas, un objet variable donné, ben ça va être sa période qui va le caractériser. Donc, il y a des, par exemple, les supernovas qui sont, disons, une des choses dont je vais vous parler maintenant, ben, c'est des événements qui durent à peu près une trentaine de jours. Enfin, disons, la partie intéressante d'une trentaine de jours, c'est l'enveloppe après l'explosion de cette supernova 1A qui se dilue petit à petit et on voit au travers et on voit il y a de la matière radioactive qui a des durées de vie qui font que pendant une trentaine de jours, il y a quelque chose à voir. Après, c'est beaucoup moins intense, okay, et la magnitude absolue, c'est de l'ordre de moins 19. Ben voilà, cet objet variable, il est là. Comme vous voyez sur ce plan-là, il y a des zones qui ne sont pas très connues. Ben, effectivement, les objets qui sont, disons, plutôt faibles et très rapides, ben, on n'a pas jusqu'à présent eu d'outils pour les regarder. Donc là, alors on peut mettre ce point d'interrogation un peu où on veut, mais en tout cas, tout ce qui est faible ou très rapide, ben c'est quelque chose qui a été très peu étudié jusqu'à présent, et effectivement c'est un domaine auquel LSST en partie, en tout cas bon, les événements très très rapides, ce n'est pas forcément le cas, mais à partir de quelques secondes, et pour des objets très faibles, effectivement, LSST est bien adapté. Alors je vais commencer par un objet qui est, disons, un bon exemple. Alors, c'est pas, enfin, comme vous avez pu entendre précédemment, il y a beaucoup de types d'objets variables. Celui-là a une caractéristique, donc c'est que c'est un objet qui est assez brillant, mais donc on peut voir très loin. Donc, si on veut le regarder très loin, à ce moment-là, il devient faible, donc il peut rentrer dans la catégorie des objets faibles. Et aussi, c'est la durée de l'événement intéressante, c'est une trentaine de jours, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet événement, avec les supernovas? Elles sont devenues célèbres parce qu'en fait, c'était une chandelle standard qui est très brillante, hein, puisque la supernova elle-même, quand elle est au maximum de sa luminosité, elle est plus intense en fait, que sa galaxie hôte. Et donc, on peut la voir très loin. Et donc, si on peut la voir très loin, ben, ça veut dire qu'on peut s'en servir pour des distances très lointaines. Et aussi, effectivement, pour un certain type de supernova, les supernovas type 1A, on a la bonne idée d'envoyer à peu près toujours la même quantité de lumière. Et donc, comme quand vous promenez la nuit dans la montagne, vous pouvez estimer à quelle distance est un village juste en voyant l'intensité des lumières du village. Mais là, c'est pareil avec les supernovas. Si vous mesurez très précisément la lumière qu'elle vous envoie, vous pouvez avoir une estimation de sa distance. Alors, il s'avère qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est des sandales standardisables, ce qui est un peu vrai pour les céphéides. Vous avez vu, il y a une relation luminosité-période. Pour les supernovas, c'est plutôt lié à la couleur, et la forme de la courbe de lumière, c'est-à-dire si elle est plus ou moins rapide, qui permet aussi donc d'avoir une estimation de la distance. Et donc, avec ça, on peut faire des diagrammes de Hubble. Donc là, ici, j'ai le redshift, là, j'ai la distance. Et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, on a rempli ce diagramme. Donc avec ça, on est capable de voir l'histoire de l'expansion de l'univers, donc de voir à quelle vitesse se déplace un objet à telle distance. Et avec ça, on reconstitue un peu l'histoire de l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 supernovas qui sont utilisées. Alors 1000, c'est beaucoup. Je dirais la première démonstration de l'expansion accélérée de l'univers a été faite avec moins d'une trentaine, en fait. Donc 1000, c'est du luxe. C'est quand même pas beaucoup. Hein. C'est un business, entre guillemets, qui dure depuis 20 ans. Les nombres dont on parle pour maintenant, donc ZTF, c'est à peu près 4000 qui est visé, donc dans un univers relativement proche. Et LSST, c'est de l'ordre de 100 000, bien mesuré. Donc c'est un changement de dimension. Et donc avec ça, on ne va pas faire exactement la même chose. On peut effectivement faire le diagramme de Hubble, et donc, comme vous verrez, ça va avoir des problèmes de systématique associés, mais on peut aussi étudier l'univers par morceaux pour essayer de voir son uniformité plus précisément. Et donc, vous voyez clairement qu'il y a un changement d'échelle. En 20 ans, on en a eu 1000, et là, bon, ZTF, en fait, en quelques années, va en récupérer 4000, et LSST, pareil, mais là, encore un ordre de grandeur de plus. Et ça, c'est uniquement, donc, effectivement, en travaillant sur le volume d'univers. Alors, sur la problématique des transients, il n'y a pas juste, disons, la... Alors là, ce que vous allez voir ici, donc il y a une petite supernova, enfin petite, il y a de la lumière qui va apparaître. Ici, ce que vous avez, donc, c'est ce que j'appelle la courbe de lumière. Donc la courbe de lumière, c'est le flux dans cette direction-là, en fonction du temps. Et puis là, vous avez la même chose au niveau de la couleur. Donc vous avez la forme du spectre, hein, les couleurs correspondant en fait à un filtre. Et alors pourquoi je vous montre ça, je vais vous l'expliquer dans 30 secondes. Donc ce que vous voyez, donc effectivement, il y a la supernova qui est passée par un maximum, puis là elle est en train de s'éteindre doucement, c'est-à-dire que elle a été, cette période-là, à peu près dure une vingtaine de jours, c'est-à-dire la période où elle est plus lumineuse. Et en fait, cette information-là, ben, c'est l'information qu'on doit collecter. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, sur un objet variable, il ne suffit pas juste de le voir une fois et dire « Ah, j'ai un objet variable ». Il faut que vous le caractérisiez. Et la caractérisation, ben, ça suppose d'enregistrer de l'information associée à cet objet plusieurs fois au cours du temps. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, d'abord, bon, ben, demande du temps. Et la méthode dont on a travaillé pendant très très longtemps, au début de ce siècle, on faisait encore ça, c'est qu'en général, on avait un instrument qui détectait qu'il y avait quelque chose de variable et il y avait un autre instrument qui permettait de le suivre. Et ça, ce n'est pas très, très efficace. Et surtout, quand on travaille dans un grand champ, comme on a beaucoup de détections, on peut se dire, mais quand je détecte un objet, je peux aussi, pendant la même période, suivre les objets précédents. Cette approche qu'on appelle « rolling search », c'est-à-dire qu'en même temps, on fait la recherche et la caractérisation des objets précédemment détectés, est effectivement très efficace, puisqu'on n'utilise qu'un seul instrument, et puis on n'est pas obligé non plus de dire... donc ça, ce sont des courbes de lumière d'un ensemble de supernovas étalées donc, sur un peu plus d'un an, qui ont été observées ici dans trois filtres différents. Et ce que vous pouvez faire, donc, vous pouvez très bien imaginer que le trigger, c'est-à-dire le fait de dire « Ah, il y a un objet variable », ce n'est pas forcément fondamental de le dire à ce moment-là, quand l'objet est encore très faible. Vous pouvez attendre un petit peu que l'objet commence effectivement à monter en luminosité, et puis surtout que vous avez plusieurs informations de couleur pour Free, puisque vous avez de toute façon observé le ciel, pour pouvoir le caractériser. Pour dire, ah ben ça, ça a une bonne chance d'être une supernova de type 1A, parce que effectivement j'ai une montée avec tel rapport de couleur entre les filtres. Et donc, vous allez être capable de l'identifier, d'identifier l'objet. Et effectivement, au bout de donc, quelques jours, ben, vous aurez toute cette information importante sur la courbe de lumière qui permet, dans ce cas-là, d'estimer en fait, la distance de cet objet. Donc, la fréquence à laquelle vous allez revenir dans un même champ, le plan d'observation, va avoir des impacts sur votre capacité de reconstruire une courbe de lumière pour un objet qui a une durée, disons, intéressante, comme les supernovas, de l'ordre de 30 jours. Et ça, ce n'est pas acquis. Même pour un survey comme LSST, Le plan d'observation est encore en fait en discussion. Bien qu'on dit toujours on va revenir sur la même portion du ciel tous les trois jours, ce n'est pas forcément suffisant pour les supernovas, parce que si vous revenez sur la même portion du ciel tous les trois jours avec un filtre différent, ça peut être qu'un même filtre, vous allez revenir dans un même filtre, ça peut être au bout de 15 jours. Et ça, pour les supernovas, ça ne permet pas de caractériser. Il vous faut une courbe de lumière dans un filtre avec à peu près un échantillonnage tous les trois jours pour chaque filtre. Et donc, ça ne marche pas. Disons que les supernovas que vous allez avoir, de façon plus ou moins aléatoire, il y en a beaucoup que vous aurez détectés, mais qui ne seront pas utilisables pour la cosmologie, parce que vous n'aurez pas de jolies courbes de lumière. Donc, malheureusement, c'est bien, vous pourrez faire de la statistique de combien de supernovas vous avez, mais vous ne pourrez pas les utiliser, parce que vous n'aurez pas une caractérisation de chacune assez bonne. Et donc là, ce qui est montré, donc, c'est le nombre de jours, donc c'est à peu près la durée du projet, et ici c'est le nombre de supernovas que vous aurez donc accumulées au bout d'un certain temps. Et vous voyez que entre disons la baseline actuelle de LSST qui correspond à peu près à 50 000 supernovas, donc 5 000 supernovas par an, et évidemment ce que nous on prône, qui est une recherche un petit peu différente qui aboutit à 250 000, il y a une grande différence. D'accord. Donc le plan d'observation, même si c'est pas parce qu'on regarde le ciel tout le temps que ça reste pas une issue. Donc là, ce que je vais vous montrer, donc c'est un petit film qui va mieux vous permettre de comprendre comment un survey évolue. Et donc là, c'est le plan d'observation, disons standard de LSST. Donc ce que vous voyez ici, en particulier, c'est juste les supernovas qui apparaissent. Donc, au cours du temps, vous vous déplacez, puisque la Terre tourne et vous ne voyez pas toujours la même partie du ciel. Okay, donc, l'hémisphère sud commence à se remplir. Et en fait, ici, vous avez, dans cette case-là, vous avez trouvé dans un certain nombre de supernovas, quel est le Z moyen max que vous avez dans cette case-là, et aussi la fréquence, c'est-à-dire la qualité des courbes de lumière. Donc ça, c'est intégré, et là, c'est en instantané. D'accord ? Donc là, on est en train d'observer cette zone du ciel, et ça se déplace doucement en fonction de la saison. Donc ça, c'est le plan d'observation, qui certainement ne sera pas celui qui est utilisé, mais qui est celui de référence, c'est celui auquel on correspond. Donc vous voyez, petit à petit, au cours du temps, effectivement, ça se remplit. Il y a en fait, dans ce cas-là, il y a déjà ce qu'on appelle un petit peu de rolling search, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année, on ne regarde pas exactement le ciel à la même fréquence sur la même bande, donc ça ne se remplit pas de façon tout à fait uniforme. Et puis vous voyez deux grands trous ici, donc à la fin. Ça, c'est en fait, c'est la galaxie. La galaxie, en fait, elle n'est pas observée dans le survey par défaut. Dans la galaxie, comme j'ai dit, donc il y a beaucoup d'étoiles. Si on regarde la galaxie, il y a 10 millions de transiens par jour, mais surtout, il y a des étoiles qui sont brillantes, qui pour LSST, en fait, sont pratiquement trop brillantes, et donc, en fait, qui ne sont pas très optimales pour ce télescope. La galaxie ZTF, par exemple, est mieux armée pour regarder la galaxie, c'est-à-dire que ça ne va pas saturer ses CCD, il pourra voir effectivement toutes les étoiles relativement proches qu'il y a dans la galaxie. Donc, pour observer la galaxie ne sera pas, en tout cas pour le cœur de la galaxie, ne sera pas observée par LSST à la fréquence tous les trois jours. Donc en particulier pour le domaine variable des étoiles, ce n'est pas l'idéal. Mais il y a des programmes d'observation de la galaxie qui en fait seront plus ciblés pour regarder la variabilité qui nous intéresse au niveau des étoiles, mais aussi qui seront probablement pris avec des durées de pause un petit peu plus courtes pour éviter ce problème de saturation. Alors là, maintenant, ce que je vais vous montrer, donc c'est un autre plan d'observation, c'est juste pour vous donner le concept du plan d'observation. Donc là, c'est le plan d'observation très orienté supernova, qui à la fin aboutit... qui aboutit à avoir collecté le même nombre d'objets, mais pas regardé avec la même fréquence. Et comme vous voyez, ça se remplit beaucoup plus vite, et le nombre de supernovas augmente très vite. Et en fait, la raison pour laquelle... Ça, ce sont des supernovas de qualité cosmologique, c'est-à-dire qu'ils sont très bien mesurés. C'est qu'en fait, la fréquence à laquelle on revient avec un même filtre, c'est pratiquement tous les jours. Et pour faire ça, en fait, on coupe le ciel en tranches et il y a une partie du ciel sur laquelle on fait cette cadence un petit peu accélérée et l'autre partie du ciel étant observée avec une cadence plus faible. Et là, l'intérêt, c'est que vous voyez très bien, au cours du temps, là, c'est la période de l'année où on regarde c'est la partie du ciel visible, et vous la voyez très très bien se déplacer à un moment donné, et effectivement ce survey-là a une très très grande efficacité pour les supernovas. Alors, ok, donc la cadence d'observation, le plan d'observation que vous allez avoir compte. Et essentiellement, c'est associé à la vitesse à laquelle votre événement variable va varier. Et si vous voulez le mesurer précisément, il faut que votre fréquence d'observation soit connectée à sa vitesse de variation. Alors, l'autre problème qu'il y a, en particulier pour les supernovas, mais qu'il y a pour tout phénomène variable, c'est que, ok, cet événement... Enfin, disons, cet objet a changé, mais quelle est votre capacité de dire qu'il a changé et de combien il a changé? C'est-à-dire la précision à laquelle vous mesurez la photométrie est quelque chose qui est fondamental. Et donc, il faut une très grande qualité photométrique, c'est-à-dire être capable de dire, bon, j'ai compté tant de photons aujourd'hui, et par rapport au fait que j'avais compté tant de photons hier, je sais faire la relation. Je suis capable de mettre sur une échelle absolue ce comptage de photons et de dire, ben, c'est différent d'aujourd'hui par rapport à hier. Et ce problème est en fait encore plus crucial pour les supernovas, parce que les supernovas, en fait, on compare le flux reçu d'objets qui sont à des distances différentes, qui sont donc à des couleurs différentes, et on veut comparer ce nombre de photons sur une même échelle. Et donc, il faut être capable non seulement de bien contrôler la couleur à laquelle on mesure, donc effectivement, ce qu'on appelle ici en fait le delta lambda, c'est-à-dire que la fenêtre à laquelle on compte les photons, c'est-à-dire au niveau de la définition spectrale du filtre qu'on utilise, avec quelle précision on connaît exactement les bords du filtre, hein, le filtre fait à peu près une centaine de nanomètres, donc est-ce qu'on connaît bien les bords? Et l'autre point, c'est effectivement, bon, mais je compte les photons, et avec quelle précision je peux comparer d'une nuit à l'autre, que je connais de façon absolue dans quelle échelle je compte. Et donc, en fait, jusqu'à présent, les calibrations des systèmes étaient plutôt faites au pourcent, c'est-à-dire que quand vous mesuriez quelque chose, vous disiez, ben, j'ai 100 photons, ben, plus ou moins 1. Et il s'avère que pour faire de la cosmologie avec les supernovas, ce n'est pas très intéressant, parce qu'en fait, de par la statistique et les inconnus que l'on a, en fait, pour gagner vraiment avec LSST, donc ici, ce que vous avez, c'est en gros la quantité d'informations utiles pour caractériser l'énergie noire, c'est-à-dire pour faire de la cosmologie intéressante avec les supernovas. Et plus, c'est l'inverse de l'erreur, donc plus vous êtes haut, mieux c'est. Et aujourd'hui, on est à peu près par ici, et ce qu'on aimerait bien, c'est aller là avec LSST, c'est-à-dire pouvoir utiliser la statistique et donc réduire les erreurs systématiques liées à la photométrie, et donc faire de la photométrie, donc mesurer les flux au pour mille, et sur des grands champs comme ça, ben c'est un travail qui est nouveau, et il y a beaucoup de programmes en préparation qui devraient permettre de faire ces mesures-là. Juste pour vous donner une idée, hein, aujourd'hui on utilise des calibrateurs qui sont dans l'espace, enfin, qui sont en fait des objets qui ont été beaucoup utilisés, qui ont été faits pour le Hubble Space Telescope, qui sont donc des calibrateurs dits primaires, en fait, ils ne sont pas connus au pour mille. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, en fait, dans une couleur donnée, quel est le flux. Et donc, aujourd'hui, on a des programmes d'observation qui devraient nous permettre d'atteindre ça et d'avoir des échelles absolues qui sont de l'ordre du pour mille et qui sont surtout appliquées sur l'ensemble du ciel. Alors, si on fait ça, si on a beaucoup de supernovas, qu'on les a toutes calibrées de façon homogène, eh bien, on va pouvoir, par exemple, faire ce que je vous disais tout à l'heure, donc des diagrammes de Hubble, donc c'est un exemple, hein, mais des distances, donc des relations redshift distance, ben, à plusieurs zones dans le ciel, ou même dans plusieurs domaines de redshift, mais aussi dans plusieurs pointés dans le ciel, puisqu'on a énormément de statistiques, et donc en particulier, avec ça, on peut tester l'homogénéité de la cosmologie. Sur divers pointés. Bon, c'est un exemple. Mais l'intérêt de cet exemple, c'est que pour voir sur des objets, disons, un peu macroscopiques, donc ce genre supernova ou quasar, qui peuvent avoir donc, des durées et des problématiques de ce type-là, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour les caractériser et qu'un observatoire tel que l'SST a intégré. Bon, après, quand on a un telle capacité de voir de tels volumes d'univers, on va commencer à avoir des événements très très rares. Et donc là, il y a toute une zoologie qui va apparaître, qui commence d'ailleurs à apparaître aujourd'hui avec ZTF, qui sont des événements qu'on ne savait pas que ça existait, des phénomènes astrophysiques qui étaient inconnus. Bon, certains qui sont peut-être anecdotiques, d'autres qui vont nous apprendre des choses. sur les étoiles, sur la matière, sur l'univers. Donc là, il y a un exemple d'un phénomène qui est relativement rare, à savoir c'est une supernova, bon, ce n'est pas une 1A, c'est probablement une type 2, qui a subi une lentille gravitationnelle forte. Et donc, en fait, là, c'est vraiment l'arbre de Noël. C'est qu'avec un certain retard, elle est apparue plusieurs fois, en particulier là, dans ce cas-là, 4 fois. Autour, donc, c'est dans une zone à très grande densité, un amas de galaxies bien, bien dense. Et cet événement-là, pour l'instant, on n'en a détecté qu'un. Et on espère en découvrir à peu près une dizaine par an avec LSST, un peu plus, une 15, 20, 20. Et donc là, il y a beaucoup d'informations astrophysiques sur ces objets-là, mais les lentilles fortes, de manière générale, c'est un outil qu'on a très peu pu utiliser jusqu'à présent, et qui a beaucoup de propriétés intéressantes. Bon, là, dans le domaine temporel, ça permet de faire de la cosmologie, mais rien qu'en résolution, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc là aussi, c'est pareil, quand on regarde tout l'univers en continu, ben, on voit des événements qui sont très très rares, et on va pouvoir espérer faire de la science avec. Je vais vous montrer là encore un domaine d'événements rares qui sont, disons, dans la catégorie j'ai détecté quelque chose d'énergétique dans l'univers, donc on parlait des gamma ray bursts tout à l'heure, là je vais vous parler des ondes gravitationnelles, en fait pour les gamma ray bursts, les shorts, c'est probablement aussi des gens qui sont accompagnés d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire qu'on a des systèmes, donc soit des observatoires gamma ou X ou radio, qui ont détecté un transient. Et là, ce qu'on peut regarder, donc, c'est le glow optique, c'est-à-dire la contrepartie optique associée à cet objet. Et donc, quelles sont les contraintes et en quoi un observatoire optique tel que l'SST peut répondre à ça, c'est-à-dire à détecter la contrepartie optique donc, d'un gamma ray burst ou d'une onde gravitationnelle. Alors, il faut voir que ça, c'est une astronomie qui est très récente, hein, puisque le premier signal donc, d'une fusion de trous noirs a été détecté en 2014. Et si, bon, effectivement, sur les fusions de trous noirs, on attend relativement peu de contreparties optiques, en tout cas avec une durée qui est vraiment probablement très, très courte pour pas pouvoir effectivement la voir dans le visible, il y a d'autres phénomènes, en particulier la fusion d'étoiles à neutrons, qui, elles, au contraire, sont espérées, qu'on sait maintenant, produire des contreparties optiques importantes à travers ce qu'on appelle des kilonovas, et qui sont un produit intéressant au niveau astrophysique, parce que d'ailleurs, c'est le meilleur candidat, entre autres, pour... C'est un des intérêts de cet objet qui nous fournit... pas l'or et l'argent, mais l'or et le platine, donc c'est pas mal. Et aussi, en fait, qui permettra, donc, en ayant la contrepartie optique, on peut voir, mesurer le redshift de ces objets, et l'onde gravitationnelle permet d'estimer sa distance. Donc on peut construire un diagramme de Hubble complètement différent de celui des supernovas, qui aura des problématiques et des systématiques complètement différentes, et en particulier pour la valeur de H0, qui est donc le taux d'expansion aujourd'hui, il y a actuellement des problèmes, des incompatibilités entre ce qu'on estime avec le CMB et ce que permettent de mesurer les supernovas proches dans l'univers proche, qui sont en contradiction. Et donc là, avoir cette mesure-là indépendante est un intérêt en soi. Donc là, je reviens donc sur cette détection. Donc, ben, qu'est-ce que vous faites 17 août 2017, en fait, quand on dit que LIGO et Virgo ont détecté un signal fort, c'est LIGO, donc les deux observatoires nord-américains qui ont vu quelque chose, et Virgo qui n'a rien vu. Mais en fait, le fait que Virgo n'a rien vu a été une information pour définir la surface du ciel, enfin l'endroit de l'univers où cet événement a eu lieu. Et ça a particulièrement bien marché. Donc, avec les informations de la triangulation qu'ont permis de faire ces trois observatoires, donc deux aux États-Unis, un en Italie, Virgo, en fait, ils sont arrivés à définir donc, une surface dans le ciel de 31 degrés, où devait se produire cet événement, et une distance à peu près à 40 mégaparsecs. Et donc là, il y a un programme d'observation qui avait une liste de galaxies dans ce volume-là, dans cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont regardé. Et pour une d'entre elles, ils ont vu ça. Et comme ils avaient des images de référence pour ces galaxies, ils ont dit, ben, ça y était pas avant. Et donc, c'est un bon candidat. Il s'avère qu'effectivement, c'était le bon. Et que c'était le transient optique associé à ce burst d'onde gravitationnelle. Et donc, qui est une kilonova associée à une fusion de deux étoiles à neutrons. Alors ça, c'est le côté sympa. Donc là, à l'époque, en 2017, tout le monde criait avec les drapeaux, super, génial, nouveau domaine de l'astronomie, l'astrophysique n'a plus... Et ça, donc c'était en 2017, bon, c'est à la fin donc, du run 2 de ces observatoires. Ça, c'est le nombre cumulé d'événements qu'ils ont enregistrés. Donc vous voyez qu'en 2017, ben, ils commençaient à peine. Et aujourd'hui, on est ici, enfin, disons hier, hein, donc ça, c'est fin au printemps 2020, c'est la fin du run 3. Et vous voyez que là, ils ont accumulé énormément plus de candidats et il n'y a eu aucune contrepartie optique nouvelle qui a été détectée. Et en fait, ce n'est pas étonnant. Parce que ce gain qui a été obtenu ici, ce n'est pas juste parce qu'ils ont posé plus longtemps, c'est qu'ils ont augmenté, donc c'est ce qu'on montre ici. En fait, c'est la distance à laquelle ils sont sensibles à une fusion d'étoiles à neutrons. Vous voyez qu'en fait, dans le run 2, ils étaient capables de voir jusqu'à 60-100 mégaparsecs. Là, c'est des problèmes d'orientation. L'objet lui-même qui a été détecté était à l'ordre de 40, donc ils étaient sensibles. C'était à la limite de leur sensibilité à l'époque. Et il s'avère que là, c'est un domaine où, effectivement, avec un télescope d'un mètre, en faisant l'astuce de regarder toutes les galaxies qu'on a dans un certain volume, on peut s'en sortir pour trouver le transient optique. Ici, sur ces volumes-là, en fait, on tombe sur des objets qui sont beaucoup plus faibles. Il faut voir que les ondes gravitationnelles, enfin, le gain en volume, c'est parce que le signal qu'on cherche, en fait, est à peu près décroît de façon inverse à la distance, alors que la luminosité, c'est le carré de la distance. Donc, si vous avez un objet qui est deux fois plus loin, ben, il envoie quatre fois moins de lumière. Ben, donc, il vous faut un télescope qui puisse compenser cette perte et donc, effectivement, avoir une taille de miroir beaucoup plus importante pour atteindre ces magnitudes faibles. Et donc là, la problématique qu'a cette astronomie-là aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle n'a pas d'outils qui lui permettent de voir des transients aussi faibles et donc de bénéficier de ce gain de volume. Et donc là, effectivement, pour Virgo Ligo, l'attente de LSST est importante puisque c'est ce qui devrait permettre effectivement d'augmenter, disons, le taux de détection de contrepartie optique, en particulier donc pour les gamma-rays short, en ayant donc un volume plus grand et autorisant des objets plus faibles optiquement. Alors, bon, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs millions de triggers par jour, et dans ce flot, il y en a un. Moi, je veux ma kilonova là, qui a explosé un peu à haut à gauche sur un volume de 30 degrés, 200 mégaparsecs. Ça fait quand même un gros morceau de sandwich, enfin, d'univers. Et alors, il s'avère que dans des observatoires comme LSST, avec les informations de redshift, vous êtes capable d'estimer avec une précision pas extraordinaire, mais quand même, de savoir que l'objet est plutôt proche, c'est-à-dire 200 mégaparsecs. Enfin, pour la cosmologie, ça, c'est relativement proche par rapport à des supernovas qui, elles-mêmes, peuvent être à des endroits comme enfin, celles qu'on utilise jusqu'à présent, c'est à peu près jusqu'à la moitié plus de l'âge de l'univers, c'est-à-dire jusqu'à un redshift de 1, si ce n'est plus. Et donc, en fait, donc ça, c'est ce que vous avez en très plein, c'est le nombre d'objets dans un volume à peu près équivalent, enfin, disons, dans une surface donc, qui pourrait être concernée, faire des triggers pour Virgo Ligo. Donc, vous avez un nombre pratiquement infini d'objets. Mais dès que vous demandez qu'ils soient à 200 mégaparsecs, en fait, des supernovas proches, il y en a très, très peu, parce que le volume d'univers, le nombre de galaxies qu'il y a est relativement faible. Et donc, dès que vous mettez cette coupure de 200 mégaparsecs, en fait, tous les triggers cosmologiques, en particulier, ils sont exclus. Et donc, ça vous permet de limiter le nombre de candidats. Donc, c'est une technique pour limiter les candidats. C'est effectivement de voir si l'intensité que vous avez, est-ce que c'est un objet qui est plutôt proche ou plutôt lointain. Et cette information, elle est très importante. Bon, pour finir rapidement sur cette association, donc j'ai un transient que j'ai détecté, donc bon là un onde gravitationnelle, mais donc ça peut être un gamma ray burst ou autre. Et qu'est-ce que je m'attends à voir? Donc dans le cas des ondes gravitationnelles. Donc là, bon, j'ai mis deux filtres, donc le filtre R et le filtre I. Là, vous avez la distance, donc c'est la fusion, donc dans cet exemple, c'est la fusion de deux étoiles à neutrons. Ici, j'ai le temps. Donc ce que vous voyez, en gros, c'est la courbe de lumière. Bon, là, évidemment, ce n'est pas universel, hein, puisque ça dépend de la masse de ce qui est émis. De l'éjecta, d'accord, donc de ce qu'il y a à voir, suivant la masse de l'éjecta. Donc ce que vous voyez, eh bien, c'est plus ou moins. Donc là, vous avez en très plein ce qui est capable de voir ZTF. Eh bien, en gros, ZTF, donc, qui est celui qui aujourd'hui était le plus apte à regarder tout le ciel, eh bien, essentiellement, il ne voit rien. Il n'a pas la sensibilité pour voir. Alors, bon, là, je triche un peu parce que j'ai mis que la partie rouge, on rajoute la partie bleue. En fait, il y a un petit espoir d'avoir, mais en tout cas relativement faible, surtout pour les objets très proches, alors que LSST, sur des pauses de 30 secondes, effectivement, sera à même de voir tous ces objets-là, y compris les lointains, de façon relativement ouverte. Alors après, ben, 300 mégaparsecs, ben, ça va être dur pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour ces observatoires. Pour l'instant, ils n'ont pas les sensibilités qu'on espère obtenir là, avec le redémarrage du prochain run, sera plutôt autour de 200 mégaparsecs. Et donc, sur ces problèmes aussi de transients détectés hors optique, c'est qu'on dit, bon, ça y est, j'ai eu quelque chose. Bon, c'est vrai pour les gamma ray bursts en particulier, mais donc les ondes gravitationnelles. C'est que la précision que vous avez dans le ciel pour dire où était cet événement, où il faut regarder, n'est pas très très bonne. Dans le cas des ondes gravitationnelles, en fait, disons, dans la version actuelle, enfin, qui vient juste, disons, d'être opérationnelle, c'est à peu près, en fait, le champ de vue de LSST, ou un peu plus. Ça peut être entre 10 et 30 degrés carrés. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est, dans cette zone-là, donc avec une ou trois pauses, ou une dizaine de pauses de LSST, on va être capable de regarder tout de suite la zone suspectée pour ce transient. Il faut savoir que LSST, contrairement à beaucoup d'observatoires, c'est ce que je vous disais précédemment, a un seul plan d'observation, et donc n'est pas un observatoire qui réagit aux alertes, sauf pour les transients associés aux ondes gravitationnelles, où il y a un plan d'observation dédié, enfin, pour l'instant, du moment, si ça ne prend pas trop de temps. Donc il est prévu, effectivement, de suivre les alertes spécifiques pour les ondes gravitationnelles, de par cette proximité, disons que le fait que LSST est le seul, en fait, à avoir la sensibilité et le champ pour chercher ces objets. Alors, juste pour, dans le cadre de... C'est que, bon, dans le ciel variable, il y a un ciel variable qui est, disons, celui d'une autre système solaire, donc c'est les comètes. Il s'avère que les astéroïdes sont aussi un sujet, donc c'est un ciel variable, disons transitoire, à savoir que c'est un objet qui bouge et qui passe. Alors là, il y a une petite problématique qui est un petit peu différente de tous les autres transients, c'est qu'en général, quand vous avez un télescope, ben, si l'objet est faible et que vous avez le temps, vous pouvez faire des pauses longues. Donc quand on donne une magnitude limite, ce n'est pas forcément non plus un mur, c'est même avec un télescope relativement petit, on peut faire des pauses profondes. Il suffit d'accumuler des nuits d'observation. LSST, par exemple, une pause, c'est une magnitude 24. Dans 10 ans, on va pouvoir obtenir 27. Donc c'est un gain. Et donc la magnitude limite, elle est un petit peu négociable si on peut faire beaucoup de pauses. Alors, sauf pour les objets qui bougent, parce que la problématique, c'est que quand vous accumulez des pauses, c'est que vous devez savoir où se trouve l'objet, puisque vous voulez sommer les photons de cet objet. Le problème, c'est qu'un astéroïde ou une comète, si vous, par définition, ils ne suivent pas, ils ont leur propre trajectoire, qui n'est pas juste la rotation de la Terre, qui est leur déplacement dans le système solaire. Et donc, en fait, là, il y a une limite de magnitude intrinsèque, c'est que cet objet bouge et vous n'êtes pas capable de le suivre. Donc, si la quantité de lumière que vous collectez est insuffisante, ben, ça ne vous fera même pas un petit trait, ça vous fera peut-être un petit blur et jusqu'à rien du tout. Et donc, la sensibilité, effectivement, est le domaine de sensibilité pour voir les astéroïdes ou les objets, disons, en mouvement dans le système solaire, va beaucoup bénéficier de l'SST. puisque effectivement l'SST, avec son grand miroir et le fait qu'il regarde tout le ciel en permanence, va être capable en particulier, donc bon, ça c'est le côté publicitaire que les Américains ils ont toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête, c'est pas nous, ils ont peur de se prendre des astéroïdes sur la tête, donc ils ont il y a un plan aux États-Unis donc pour détecter l'ensemble des objets qui seraient susceptibles de rentrer en collision avec la Terre, et donc effectivement surtout qui sont des objets qui pourraient produire des dégâts sur Terre, donc qui auraient à peu près une taille de l'ordre de 140 mètres, ce qui est ici. Donc en fonction de la couleur, c'est le risque encouru. Okay, donc 140 mètres, c'est ici, donc ça devient un petit peu tranquille. Là, vous avez quelques-uns des événements. Celui-là, on en a un petit peu parlé. Celui-là est un petit peu célèbre puisqu'il a fait un gros trou en Sibérie, elle a rasé pas mal de surface d'arbres. Mais donc ça, ce sont des événements qui ne sont pas très, très graves. Mais surtout, ils sont très difficiles à détecter dans ces zones-là parce que ce sont des objets donc, qui sont relativement proches de la Terre, dont la trajectoire est complètement aléatoire, en fait, et qui se déplacent donc rapidement et qui sont assez faibles. Et donc, effectivement, LSST sera capable donc, effectivement, de détecter jusqu'à 140 mètres, de diamètre, à peu près 80% de ces objets dans le ciel. Et donc, il y a un intérêt astrophysique, hein, puisqu'il y a certaines de tous les astéroïdes. En fait, il y a une physique sur la formation du système solaire qui est intéressante si on connaît effectivement leur trajectoire. Bon, il y a un autre objet, et je pense que c'est le dernier, c'est que dans le système solaire, actuellement, il y a une petite interrogation, c'est que il y a des objets donc, qui sont assez loin, donc au niveau de Pluton, et même au-delà, qui ont des trajectoires qui sont complètement anormales dans le système solaire. Et bon, une des possibilités, c'est qu'il y aurait en fait une neuvième planète qui viendrait un peu perturber cette banlieue du système solaire et qui enverrait ces objets se promener lors de ces 4 milliards d'années d'existence de notre système solaire. Ça leur laisse un petit peu d'opportunité pour ficher la pagaille. Le problème, c'est que s'il y a des objets qui sont très très loin dans notre système solaire, ils sont très difficiles à détecter, puis ils sont très faibles. Et puis en plus, bon, effectivement, si on ne connaît pas trop leur trajectoire, ce n'est pas facile de les voir. Et donc là, effectivement, en faisant un film continu profond, on pourra effectivement voir dans le système solaire s'il y a quelque chose à voir. Donc voilà, donc ma conclusion, LSST est presque là. Donc le ciel variable est vraiment devenu un sujet, en fait, parce que observationnel, mais évidemment parce qu'intéressant au niveau de l'astrophysique ou de la cosmologie, même si c'est un sujet qui a été pertinent, hein, je veux dire, les supernovas ont laissé des traces dans les archives chinoises en particulier. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est bien. Je peux dire qu'ils étaient particulièrement inquiets de voir une étoile pendant la journée. D'ailleurs, le début de l'astronomie moderne avec Tycho Brahe, c'est qu'en sortant d'un bar le soir, il a vu une nouvelle étoile dans le ciel, et ça l'a beaucoup perturbé, il a passé sa vie à regarder ça après. Hein, donc, et c'était la première 1A dont on a la courbe de lumière, c'est lui qui l'a enregistrée. Et donc oui, c'est quelque chose qui a beaucoup, qui est un sujet, mais qui aujourd'hui est vraiment devenu un sujet d'étude profond, et pour des tas de raisons, pour l'intérêt astrophysique bien sûr, mais aussi parce qu'il y a des nouvelles méthodes d'observation, des nouveaux instruments, et des moyens d'observation qui sont dédiés. J'espère que vous êtes convaincu qu'effectivement, ça coûte du temps et que si on ne le met pas, on ne le voit pas. Et donc, ils vont permettre effectivement de faire les contreparties optiques de tous les objets que Mme Françoise Combes va vous parler et qui permettront, entre autres, effectivement, de mieux comprendre ces objets. Donc, bon, à partir de 2023, ça va être le paradis, mais en attendant, je vous souhaite une bonne soirée.